Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Nous sommes particulièrement heureuses de recevoir aujourd'hui Clotilde Dussoulier, la coach de vie certifiée que vous avez déjà très certainement entendue dans le podcast Change ma vie. Depuis plusieurs années, Clotilde partage toutes les semaines des outils pour l'esprit, pour vivre une vie épanouie et légère. À travers l'analyse de nos pensées et nos émotions, Clotilde nous donne des clés pour nous aider à aller vraiment bien. C'est pour cela que nous avons sollicité Clotilde, car s'il y a bien un moment dans notre vie où nos émotions changent, c'est lorsque nous devenons parents. À travers cet épisode, nous allons donc aborder des sujets pour mieux comprendre comment vivre une parentalité sereine et déculpabilisante. Nous avons également parlé des émotions des enfants et la façon dont nous devons les aborder avec eux. En tant que grande fan du podcast Change ma vie, nous sommes ravis d'avoir eu cette opportunité d'échanger avec Clotilde d'une sensibilité et d'un optimisme si communicants. Donc bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie. Alors j'aimerais démarrer cet entretien tout d'abord en commençant par une question qui est celle de qu'est-ce qui vous a mené à créer il y a déjà plusieurs années l'un des podcasts les plus écoutés en France.
Alors j'ai créé Change ma vie il y a 3 ans au moment où on enregistre cet entretien et je l'ai créé parce que j'avais découvert ça faisait quelques années que je découvrais pour moi-même des outils de gestion de ma vie intérieure qui m'avaient beaucoup manqué pendant la grande partie de ma vie, et en découvrant ces outils et en trouvant énormément de paix et de sérénité avec ces outils, je me suis dit que si moi j'avais mis 35 ans à les découvrir, c'était probablement pas dans le bagage de la plupart des gens, et donc j'ai voulu créer un podcast, donc Change ma vie, outils pour l'esprit, pour les diffuser au plus grand nombre en les expliquant à ma façon et en expliquant de quelle façon est-ce que moi ça m'était utile, de quelle façon est-ce que moi je les comprenais, je les mettais en pratique pour que ce soit le plus pratique et le plus applicable possible.
Super. Et donc si on est là aujourd'hui, c'est pour parler du thème de la gestion des émotions en tant que parent et également avec ses enfants. Et on souhaitait lors de cet entretien commencer à évoquer des questions en lien avec une parentalité sereine. Et on reçoit notamment beaucoup de questions de nos auditeurs au sujet de cette parentalité qui est souvent compliquée d'un point de vue émotionnel. Donc l'une de nos premières questions, c'est... On nous dit souvent qu'on se sent pas assez présent pour ses enfants. Comment vivre avec cette culpabilité?
Alors, je pense que cette idée de parentalité sereine, là où la plupart du temps on se fourvoie, en fait, c'est que je pense qu'on a qu'on a dans le discours ambiant, qu'on a véhiculé une idée de standard. De standards auxquels les parents du coup essayent de se mesurer, des standards auxquels ils essayent de se conformer, qui sont des standards qui sont complètement irréalistes et en tout cas clairement perfectionnistes. Et donc dans cette idée par exemple de présence auprès de ses enfants et dans toute la problématique de la culpabilité des parents, il y a en filigrane l'idée qu'on pense que ce qu'on fait, ce n'est pas assez, que ce qu'on fait, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas comme il faut, etc., en comparant dans notre tête à une idée qu'on se fait, qu'on a reçue, qu'on n'a pas très bien définie, mais qu'on ne questionne pas, qui est une idée du parent parfait, qui fait tout parfaitement, qui est tout le temps parfaitement disponible, parfaitement calme, parfaitement aimant, parfaitement disposé, qui équilibre son temps parfaitement, qui gère parfaitement les choses. Et en fait, c'est simplement que cette idée de perfection, elle est évidemment complètement inaccessible. Et donc, c'est dans le décalage entre les standards auxquels on pense qu'il faut se tenir et ce qu'on perçoit de notre propre performance de parent ou de ce qu'on fait, nous, personnellement, c'est dans cet écart-là que se crée la culpabilité, parce qu'on se dit, si j'étais un bon parent, je serais de cette façon-là qui me semble parfaite, et donc si je suis même un millimètre en dessous de ça, et souvent on se sent bien en deçà, ça veut dire que je ne fais pas bien, ça veut dire que je ne suis pas bien, ça veut dire que je ne suis pas un bon parent, et là ça crée un discours intérieur qui est finalement encore plus dommageable à la vie du parent et à la relation avec son enfant que éventuellement le moment où la personne n'était pas présente ou le moment où la personne a perdu son calme ou où elle était en train de penser à sa réunion au lieu d'être en train de penser à ses enfants, etc.
Et du coup, vous avez notamment évoqué les moments où les parents perdent leur calme et c'est souvent source de culpabilité quand justement les parents se mettent fortement en colère contre leurs enfants. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner pour réussir à gérer ce type d'émotion?
Alors, moi, j'accompagne, dans mon métier de coach, j'accompagne des femmes qui ont des enfants. Et donc, ce sont des problématiques sur lesquelles on travaille énormément. Et il me semble que c'est une problématique qui est à deux étages. Il y a, d'une part, pourquoi est-ce que je me mets en colère avec mes enfants? Pourquoi est-ce que je perds mon calme? Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où je fais quelque chose qui n'est pas ce que j'aimerais dans l'absolu faire en tant que parent? Donc ça, c'est le premier étage de la problématique. Mais le deuxième étage, qui est celui auquel il faut s'attaquer en premier pour pouvoir avoir accès au premier étage, c'est-à-dire faut démarrer par ce deuxième étage qui est le deuxième étage de la culpabilité. Et en fait, on revient à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on a l'idée que un bon parent, c'est un parent qui est une espèce alors pour une mère, c'est une sainte, pour un père, c'est un saint. Et en fait, on oublie complètement que les parents aussi ont des émotions, que les parents n'ont pour la plupart pas d'outils de gestion de leurs émotions, qui font du mieux qu'ils peuvent, mais que c'est nécessairement imparfait. Et donc, l'idée, c'est qu'on commence par arrêter de se juger, par se dire, si j'ai perdu mon calme, c'est que à ce moment-là, il s'est passé quelque chose pour moi qui fait que j'ai ressenti une émotion qui a fait que j'ai perdu le contrôle de ce que j'ai dit, du ton de ma voix, etc. Et donc bon, c'est pas mon truc préféré, mais avant de me juger et donc de mettre un couvercle là-dessus qui va m'empêcher de comprendre ce qui s'est vraiment passé, l'idée c'est de se dire oui, c'est pas mon truc préféré et donc je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça m'arrive, dans quelles circonstances est-ce que ça m'arrive. Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? De quoi j'aurais besoin pour être le parent que j'ai envie d'être? Et donc ça se fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension et beaucoup de compassion. Parce qu'en fait, finalement, dans l'idée de parentalité bienveillante, on a souvent une idée très claire de à quoi ça ressemble d'offrir cette bienveillance aux enfants. Et je pense que c'est très important de l'offrir aussi aux parents. Parce qu'en fait, les parents doivent se parler à eux-mêmes de façon bienveillante. Et de la même façon qu'on essaie de comprendre et d'accompagner nos enfants, il faut que les parents sachent se comprendre et s'accompagner eux-mêmes. Parce qu'en fait, de la même façon qu'on ne veut pas juger ou être en colère vis-à-vis de nos enfants, si on se juge nous-mêmes ou qu'on est en colère contre nous-mêmes d'avoir jugé nos enfants ou d'avoir été en colère avec nos enfants, on ne fait qu'entretenir cette dynamique-là.
Et vous avez parlé d'outils de gestion des émotions pour les parents. Est-ce que vous en avez certains à nous lister?
Alors, le podcast tout entier, c'est une boîte à outils de gestion des émotions. Mais en fait, je m'aperçois que pour la plupart des adultes, et je pense la quasi-totalité des adultes, n'ont reçu aucune forme d'éducation émotionnelle, n'ont reçu aucune forme d'outils, n'ont reçu aucune forme de connaissance du fonctionnement émotionnel d'un individu. Et donc, en fait, quand ils ressentent des émotions, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que ces émotions, ils ne savent pas d'où viennent ces émotions, ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, c'est pour ça que souvent, on se sent submergé par ces émotions. On est en permanence en résistance ou en lutte ou en train de se juger pour ces émotions, ou alors on redoute ces émotions, on essaye de les fuir, de mettre un couvercle dessus, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui fait partie du fonctionnement vraiment, c'est un fonctionnement central de l'être humain, le fonctionnement émotionnel. Et en fait, c'est comme si on était complètement déconnecté de ça. Et de façon évidente, c'est comme si on conduisait un véhicule et que le GPS nous envoyait des messages sans arrêt qu'on ne savait pas interpréter. Et on essayait de casser le GPS ou de l'éteindre ou de le jeter par la fenêtre. En réalité, du coup, ça veut dire qu'on emmène le véhicule n'importe où, n'importe comment. On a vraiment besoin d'avoir cette connaissance émotionnelle de soi-même. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que la parentalité bienveillante et ce qui est véhiculé autour de ça, ça nécessite de mieux comprendre le fonctionnement émotionnel des enfants. Mais en réalité, les adultes, la plupart d'entre eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de mieux comprendre leur propre fonctionnement émotionnel. Parce qu'une fois que moi, je comprends comment ça fonctionne pour moi, il m'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui peut se passer pour mon enfant. En décalant simplement, parce que le niveau de maturité, évidemment, cognitif et émotionnel d'un enfant n'est pas le même. Mais je n'ai aucune chance de comprendre ce qui se passe pour mon enfant si quand moi je ressens une émotion, je mets un couvercle dessus, je mange du chocolat, je pète les plombs. C'est moi-même, enfin c'est mon propre fonctionnement émotionnel qu'il faut que je sache décoder avant de pouvoir être dans quelque mesure que ce soit d'aider mon enfant à apprendre ça pour lui-même.
Et qu'est-ce que vous avez découvert en devenant mère ? Par rapport à tout ce que vous avez dit.
Alors, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir des enfants qui personnellement, m'a montré de façon tout à fait claire et impérieuse les limites de ma connaissance de mon propre fonctionnement. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sensible, voire très sensible, quelqu'un d'assez émotif, c'est-à-dire j'ai toujours eu une vie émotionnelle assez vive, avec des émotions que je ressentais, je pense, plutôt plus intensément que les gens de mon entourage. Et j'ai réussi à trouver plus ou moins des rustines, des stratégies qui ont fonctionné jusqu'à un certain point. Mais à partir du moment où j'ai eu mon premier enfant en particulier, enfin, parce que je les ai eus l'un après l'autre, à partir de la naissance de mon premier enfant, je me suis rendu compte que le fait d'endosser ce rôle supplémentaire, le fait d'avoir cette responsabilité supplémentaire et en fait ce rôle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça m'a vraiment mise en grande difficulté émotionnelle. Je pense avoir fait une certaine forme de dépression du postpartum ou en tout cas d'hyperanxiété du postpartum qui n'a pas été diagnostiquée. Mais avec le recul, je pense que c'est vraiment ça que j'ai traversé, qui venait du fait que en fait, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait pour moi et je me suis noyée en fait dans des difficultés émotionnelles dont je ne savais pas m'extirper. Et donc c'est vraiment à la suite de ça que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus. Je suis tombée d'ailleurs un petit peu par hasard dessus, mais sur des notions de développement personnel, de coaching, de neurosciences qui expliquent simplement. Parce qu'une émotion, c'est un phénomène complètement physiologique qui est déclenché dans le cerveau. Enfin, c'est pas quelque chose d'ésotérique ou c'est pas quelque chose qui est pour les hypersensibles. Ou, enfin, voilà, ça concerne absolument tout le monde. Et ça, j'étais assez étonnée que... de n'être jamais tombée dessus avant. Enfin, moi, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 32 ans, je crois. Et c'est à la suite de ça que j'ai découvert ces outils-là.
D'accord. Et du coup, maintenant, je voudrais vous demander, donc vous avez parlé beaucoup de justement cette gestion émotionnelle à devenir parent et maintenant, comment gérer celle de ses enfants. Comment est-ce que vous expliquez les émotions aux enfants ?
Alors, la façon dont... C'est-à-dire, il me semble, et je vais revenir, enfin, je vais faire référence à ce que j'ai dit en amont, je pense que la meilleure façon d'apprendre à nos enfants comment fonctionnent les émotions, qu'est-ce que c'est une émotion, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les accueille, etc., la meilleure façon de leur inculquer ça, c'est de le leur montrer par l'exemple. Et en fait, pour moi, c'est finalement la première responsabilité que je me donne en tant qu'adulte, adulte de référence pour mes enfants, c'est de m'assurer que moi-même, je dis ce que je prêche, c'est-à-dire que moi-même, dans ma gestion de mes émotions, je m'efforce de prendre la responsabilité de mes émotions, de me donner ce dont j'ai besoin pour avoir une météo émotionnelle qui corresponde à comment j'ai envie de me sentir, que quand j'ai une montée d'émotions, j'essaye de la gérer de la meilleure des façons que je peux, et si à un moment ça n'a pas été satisfaisant à mes yeux, que je puisse leur en parler après, leur expliquer ce qui s'est passé pour moi, leur dire que ça n'a rien à voir avec eux, leur expliquer, pouvoir avoir cette conversation. Et à mon sens, c'est ce dont beaucoup d'entre nous ont manqué venant de la génération de nos parents, qui évidemment, eux, c'est pas qu'ils voulaient nous couper de ça, c'est juste qu'eux n'avaient pas non plus ces outils. Et en fait, c'est le fait de pouvoir, enfin, que les émotions soient quelque chose dont on parle très simplement. qu'on puisse mettre des mots dessus, qu'on puisse en parler, qu'on puisse sans plaquer des choses sur eux, c'est-à-dire sans dire « Ah oui, je vois que tu te sens comme ça parce que telle raison. » Parce que moi, en tant qu'adulte séparée de mes enfants, je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils se sentent et ce qui se passe pour eux. Je ne peux que savoir ce qui se passe pour moi. Et je peux essayer de les aider très humblement à la hauteur de ce que moi je sais et de ce que je suppose. Mais il y a toujours une très grande humilité à garder. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important de voir que nos enfants sont des individus émotionnels à part entière et qu'en tant que parent, on ne sait pas et on ne peut pas prétendre savoir. On peut juste essayer avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de douceur de les accompagner du mieux qu'on peut dans la limite de nos propres limites émotionnelles.
Vous parlez aussi beaucoup dans votre podcast, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi de nos pensées, et qu'en fait notre cerveau guide un peu nos pensées et qu'on peut, on peut un peu être maître de nos pensées. Est-ce que vous arrivez à transmettre ça aux enfants, à leur expliquer aux enfants ?
Alors effectivement, les pensées et les émotions finalement sont un peu les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que les émotions que je ressens sont créées dans mon corps par les pensées auxquelles j'adhère dans ma tête. C'est-à-dire que c'est quand je pense quelque chose que ma pensée, elle se situe au niveau de mon cerveau, c'est la lecture que fait mon cerveau de ma situation, et la façon dont mon cerveau la traduit pour mon corps, c'est une émotion. Donc en fait, toutes nos émotions viennent exclusivement des pensées qu'on a eues en amont. Et donc ça, c'est quelque chose pour les enfants avec qui, pour ma part, j'amène ce sujet sans en faire un cours magistral ou même pendant la classe à la maison. C'est simplement que je m'assure, d'une part, que dans la façon dont moi je parle de mes propres émotions, je ne dis jamais, par exemple, « tu m'as énervé » ou « tu m'as fait perdre patience ». C'est toujours « je me suis énervée, j'ai perdu patience, je me suis fâchée parce que j'ai pensé que… » Et donc, c'est simplement le fait d'être précis autant que possible dans le langage pour ne jamais dire que c'est une circonstance extérieure qui a causé mes émotions et surtout pas que c'est mon enfant qui a créé mes émotions. Donc, encore une fois, ma première responsabilité, c'est d'être cet exemple-là et de les habituer à cette façon-là de voir. Et ensuite, moi, ce que je fais, mais qui énerve mes enfants, c'est que quand y en a un qui dit « il m'a énervé », comme ça, dans le courant de la conversation, je lui dis « tu t'es énervé parce que tu as pensé que… » Et donc, j'essaye de le faire de la façon la plus fluide et la moins agaçante pour eux, parce que je comprends très bien que quand on est dans l'émotion et que quand on est dedans et qu'on pense vraiment que c'est notre frère qui nous a énervé, on n'a pas envie d'entendre « non, en fait, c'est toi qui t'es énervé ». Pour autant, il me semble que c'est important dans ces moments-là que l'adulte puisse, tout en étant complètement dans la compréhension de l'émotion, juste remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que ton frère n'a pas le pouvoir de t'énerver. Par contre, tu t'es énervé parce que tu as pensé, il fait ça parce qu'il veut m'embêter ou il veut… voilà. Donc, et ça, je sais que c'est un message qui rentre parce que du coup, il y en a un qui répond à l'autre quand il y en a un qui lui dit tu m'énerves ou tu m'embêtes. L'autre, il lui dit je peux pas t'énerver, il y a que toi qui peux t'énerver. Donc ils s'en servent l'un contre l'autre. Mais en tout cas, j'essaye. D'une façon générale, je prends les choses très au sérieux pour moi-même, mais avec eux, toutes ces histoires d'émotions, de pensées, etc. Je ne veux surtout pas en faire quelque chose de sérieux ou d'ennuyeux. Voilà, ça reste très léger. Je leur offre des choses. Moi, en réalité, je sais plus de choses qu'eux parce que je suis une adulte. Mais en fait, je veux leur ouvrir le champ des possibles et qu'ils fassent leur marché de la même façon que finalement sur le podcast. J'explique ce qui m'est utile à moi et la façon dont moi je comprends les choses. Et puis mes auditeurs et mes auditrices font leur marché, gardent ce qui leur plaît et mettent de côté le reste.
Et tout à l'heure, vous avez parlé, à juste titre, qu'en tant que parent, on veut être parfait. Bon, moi, ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive encore. Mais comment on peut faire pour accepter de ne pas être parfait, justement ? Parce qu'on veut, en général, donner le meilleur à nos enfants tout le temps, donc le meilleur de nous-mêmes, le meilleur dans la vie. Et c'est compliqué d'accepter tout ça. Est-ce qu'il y a des conseils à donner là-dessus ?
Alors, moi, il me semble, et c'est toujours mon approche, c'est que quand on réfléchit à cette problématique qui est assez large, c'est-à-dire l'idée du parent parfait, on veut le meilleur pour nos enfants, etc. Je trouve que c'est toujours utile d'essayer de se poser la question d'une façon plus précise et d'essayer de regarder dans des petites situations du quotidien les standards qu'on se met et donc finalement de faire, au lieu d'avoir une approche un peu macroscopique et de loin de cette problématique, c'est généralement, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe quand on regarde sur un sujet précis. Et donc, ça peut être, par exemple, le menu du mardi soir. Est-ce que, par rapport à ce que j'ai le temps ou la possibilité de préparer, est-ce que j'ai un discours intérieur alors que je suis en train de faire des pâtes? Est-ce que je suis en train de me dire, les pâtes, ça va pas, c'est pas suffisant, ils en ont déjà mangé à telle date, ça va faire ci, ça va faire ça, ça veut dire ça sur moi, ça veut dire ça sur eux, voilà ce qui va se passer, etc. Donc, sur des petites situations comme ça, se dire, tiens, je remarque que quand je suis en train de faire des pâtes pour mes enfants deux soirs de suite, je remarque que j'en tire la conclusion que c'est inadéquat, que ça va pas, que c'est pas assez parfait. Et donc, pouvoir utiliser ces petites situations pour ensuite réélargir et me dire, qu'est-ce que j'en pense vraiment quand je suis juste entre moi et moi? Est-ce que c'est vraiment un problème de leur avoir fait des pâtes lundi soir et mardi soir? Est-ce que c'est le signal que peut-être j'ai un peu baissé la garde sur l'alimentation alors que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je vois que eux ils se sentent mieux quand ils mangent, j'en sais rien, autre chose que des pâtes deux soirs de suite, et c'est un exemple complètement pris au hasard. C'est-à-dire utiliser ces petites situations-là pour se poser des vraies bonnes questions qui ne soient pas dans le jugement, mais simplement en se disant, en fait, mon cahier des charges de parents, il n'y a que moi qui le rédige, mais par contre, il faut que je m'assure que les standards auxquels je me tiens, j'ai commencé par les définir et que ces standards, ils sont accessibles et que finalement, je crée pour moi-même les conditions du succès. Parce que ce qu'on sait de l'être humain, c'est que un être humain s'épanouit dans le challenge, mais il s'épanouit dans juste la bonne dose de challenge. C'est-à-dire qu'un être humain aspire à s'améliorer, à faire mieux, à apprendre, à évoluer. Mais par contre, si on lui propose des standards qui sont complètement irréalistes, en réalité, c'est l'antithèse de l'épanouissement. Donc l'idée, c'est de me dire, peut-être que deux soirs de suite, j'ai fait des pâtes à mes enfants, et peut-être que j'aspire à leur proposer une alimentation qui soit, j'en sais rien, plus diversifiée. Et donc à ce moment-là, c'est quel est le premier petit pas? Quel est le premier petit changement que je pourrais mettre en place, qui soit accessible, qui me tire un tout petit peu dans la bonne direction, dont je puisse tirer de la satisfaction? Et une fois que j'en serai là, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai peut-être trois féculents avec lesquels je fais une rotation dans la semaine, et j'aurai créé ça pour moi. Et une fois que je serai à ce stade-là, je pourrai essayer une chose de plus, une chose de plus, une chose de plus. Et donc, en fait, c'est vraiment, et c'est ça que je transmets aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment l'idée de se dire que il faut toujours être son propre allié, il faut toujours s'efforcer d'être son propre partenaire, son propre mentor, son propre conseiller, et avoir cette approche-là vis-à-vis de soi-même.
Oui, c'est bien, c'est aussi partir dans du concret, c'est ça qui est très bien aussi, je trouve. Et puis, je voulais vous parler aussi, parce que souvent, moi, je rencontre des parents. Et c'est très triste qu'on ait des enfants, par exemple, qui ont du mal à l'école, qui ont des difficultés. Et là, il y a des émotions très fortes, en fait, parce que ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants, ce que je comprends, hein. Et c'est pas toujours facile non plus de les accompagner en tant qu'enseignant, directeur d'école et tout ça. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces parents qui, à juste titre, sont inquiets pour leurs enfants? Et du coup, plus ils sont inquiets, plus l'enfant est inquiet. Et puis, plus il se retrouve en échec parce qu'il perd confiance en lui. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ce niveau-là?
Oui. Alors, la toute première étape, qui n'est pas du tout la plus facile, c'est d'arriver à une certaine forme d'acceptation, qui est simplement le fait de se dire, d'arriver en tant qu'adulte face à un enfant, à avoir une partie de soi qui peut-être se dit, j'aurais souhaité pour mon enfant qu'il soit plus comme ci ou qu'il soit plus comme ça, ou j'aurais souhaité pour moi-même avoir un enfant qui soit plus comme ci ou plus comme ça. Et on a le droit d'avoir une vision, d'avoir une vision rêvée de ce qu'on attendait de notre enfant, de ce qu'on attendait de notre relation avec notre enfant. Donc ça, on a le droit de l'avoir. Par contre, quand on est en interaction avec l'enfant, d'essayer de mettre ça de côté et d'être autant que possible dans l'acceptation de l'enfant qui est juste devant nous, à ce moment-là, tel qu'il est exactement, et nous-mêmes, tel qu'on est exactement, c'est-à-dire d'essayer au maximum de se rencontrer, nous, adultes imparfaits, avec nos failles, nos faiblesses, et puis nos forces et nos qualités, face à cet enfant, avec ses failles, ses faiblesses, ses forces et ses qualités, et d'essayer de s'affranchir dans l'instant, et par exemple si c'est autour des devoirs ou des résultats scolaires, etc., d'être le plus connecté à la réalité de la situation de chacun. Parce qu'en fait, finalement, le pire qu'on puisse finalement le pire qui puisse se passer dans ces situations-là, c'est qu'il y ait une déconnexion entre l'adulte et l'enfant. Parce que s'il y a une déconnexion entre l'adulte et l'enfant, l'enfant n'a plus l'adulte pour l'aider, parce que comme il se sent déconnecté, il va peut-être se refermer ou se rebeller ou en tout cas ne plus partager des choses avec l'adulte. Et donc là, l'adulte a vraiment complètement perdu le lien qui justement permet d'aider l'enfant à notre mesure. Et donc il me semble que dans des situations de difficulté comme ça, finalement, ce que le parent peut essayer de se dire, et encore une fois, je ne dis pas du tout que c'est facile, et probablement ça nécessite une certaine forme d'accompagnement, enfin en tout cas l'accompagnement est vraiment précieux pour ça, c'est d'essayer de se dire la qualité de notre relation aura un impact beaucoup plus important sur la vie de mon enfant que les résultats scolaires qu'il obtient cette année. Et donc de quelle façon est-ce que je peux... Et en fait, l'acceptation n'est pas la résignation. Et c'est souvent ça qui finalement tend un piège aux parents, c'est qu'ils se disent « si j'accepte mon enfant là où il est, ça veut dire que je ne lui fais plus rien faire, que je n'essaye plus rien, que je lui laisse la bride sur le cou, et à ce moment-là, ça va être de pire en pire. » Mais l'acceptation n'est pas la résignation, l'acceptation c'est juste de se dire « bah voilà où est-ce qu'on en est ». Et du coup, ça sert à rien de se dire « comment est-ce qu'on aurait voulu que ce soit, d'accord ?» C'est pas comme ça que c'est. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider notre enfant et pour essayer de maintenir autant que possible une relation de bonne qualité, une relation de confiance, une relation de sincérité. Et justement, la confiance et la sincérité, c'est aussi aux parents de montrer l'exemple. Et donc, le parent, selon l'âge de l'enfant, peut être tout à fait honnête et ouvert sur le fait que c'est difficile pour lui, parce que voilà ce qu'il aimerait pour lui, parce que... en fait, c'est dans l'authenticité de cette relation qu'on peut le mieux aider les enfants.
Vous avez parlé de déconnexion et de faire en sorte d'avoir de bonnes relations. Qu'est-ce qui se passe justement quand vous arrivez au stade où vous n'avez plus cette bonne relation et vous êtes complètement déconnecté de votre enfant ? Je pense à cette question parce qu'on a beaucoup d'exemples autour de nous de parents qui disent qu'ils n'arrivent plus à communiquer du tout avec leurs enfants et qui sont en relation complètement conflictuelle, notamment à l'adolescence. Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus ?
Alors, il me semble que dans toutes les relations, et en particulier, c'est vraiment très notable dans la relation entre les parents et les enfants, c'est que je pense que les choses ne sont jamais... c'est jamais trop tard, et qu'il y a toujours quelque chose à faire quand on est celui qui souhaite que la qualité de la relation s'améliore, qu'il y a toujours des choses à faire. Et la première chose pour le parent, c'est de commencer par faire le ménage de son côté. C'est-à-dire commencer par, en dehors de toute interaction avec l'enfant, commencer par se poser des questions et vraiment examiner l'histoire que le parent se raconte sur sa relation avec son enfant, l'histoire que le parent se raconte sur son enfant, sur son comportement, etc. Parce qu'en fait, cette histoire-là, on la porte dans toutes les interactions avec l'enfant, et les enfants, jusqu'à un certain âge, ont quand même une certaine forme de... c'est pas de la télépathie, mais ils ont une perception très intuitive de l'énergie que les parents apportent à la relation. Et du coup, l'idée, c'est de faire le travail de son côté, du côté du parent, pour essayer de déblayer au maximum les jugements de soi, les jugements de l'enfant, etc., pour que finalement, on apporte à la relation quelque chose qui ressemble le plus à de l'amour et à de la connexion et à de la complicité et à de la confiance. Mais en fait, ce sont les jugements de soi en premier lieu, quand on est le parent, et les jugements de l'enfant de façon, au second rang, qui font obstacle. Et donc en fait, il y a vraiment, c'est vraiment la première priorité, c'est que le parent se dise, si je me raconte l'histoire que on n'arrive plus du tout à communiquer, qu'il me respecte pas, que il va avoir des problèmes, qu'il est rebelle ou que sais-je, tous ces jugements vont créer pour nous des émotions qu'on va apporter aux interactions, et les enfants, ça va plus, enfin l'enfant va recevoir cette vision-là, va recevoir cette histoire-là, et ça va créer un résultat dans la relation qui va être le contraire de ce qu'on recherche.
Mais si vous tombez dans une situation où, par exemple, votre enfant vous en veut parce qu'il y a eu un événement familial fort, par exemple un divorce, de la tromperie ou des choses comme ça, comment est-ce que vous arrivez à renverser la tendance? Parce que justement, cet enfant pourrait avoir des raisons compréhensibles de vous en vouloir.
Oui. Alors, il me semble qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est que dans une relation entre deux personnes en général, mais entre un parent et un enfant, l'idée, c'est que chacun est 100% responsable de sa partie de la relation. Et donc, en fait, moi, en tant que parent, je suis 100% responsable de la qualité de ma relation avec mon enfant. Mais mon enfant, il est 100% responsable de la qualité de sa relation avec moi. Et moi, en tant que parent, je n'ai pas de prise et je n'ai pas de contrôle sur cette partie-là de la relation. Tout ce que je peux faire en tant que parent, et en particulier si on parle d'une situation de séparation, ou etc., où l'enfant pense quelque chose de ce qui s'est passé et ressent ces émotions-là, moi, je peux lui en parler avec amour, avec compassion, avec compréhension, etc., lui dire comment les choses se présentent pour moi, voilà, communiquer avec l'enfant autant que je veux. L'idée, c'est de laisser à l'enfant le droit plein et entier de continuer à penser que c'est de ma faute ou de continuer à penser que j'ai fait quelque chose de mal. Et ce n'est pas sous mon contrôle et ça ne me regarde pas ce que mon enfant choisit de penser et comment est-ce qu'il choisit de se sentir.
Mais ça doit être dur émotionnellement du coup pour un parent de devoir accepter du coup que son enfant puisse ressentir ce type d'émotion à son égard.
Alors, ce qui est encore plus dur, c'est d'y résister et d'essayer de changer la pensée et l'émotion de quelqu'un sur lequel on n'a absolument aucun contrôle. Donc, en fait, c'est toujours l'idée, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'absolu. Bien sûr, si on pouvait tout programmer notre vie exactement comme on l'entendait, il n'y aurait pas eu de problème, l'enfant ne nous en voudrait pas, etc. Bien sûr, et on a le droit de souhaiter ça. C'est juste que quand c'est pas ça qui se passe, tout le temps qu'on passe à se dire « je préférerais qu'il ne m'en veuille pas, je regrette d'avoir fait ça, etc. », ça, c'est l'œil dans le rétroviseur et on peut y passer autant de temps qu'on veut. C'est pas là-dedans qu'il y a les graines de la suite. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah d'accord, bah ok, pour l'instant, il m'en veut, pour l'instant, c'est sa vision de la situation. Je la respecte, il a le droit et moi, tout ce que je peux faire, c'est continuer à lui montrer que je l'aime, à continuer à être présente, à continuer à être la mère ou à être le père que j'ai envie d'être pour cet enfant. Et comme c'est un être humain séparé de moi et qui est complètement libre de ses pensées et de ses émotions, peut-être que toute sa vie, il pensera ça. Et c'est ça qu'il choisira de faire. Et je n'aurai aucun contrôle dessus, mais moi, je peux continuer à l'aimer exactement de la même façon.
Alors moi, je voudrais revenir en tant qu'enseignant, parce que si j'ai choisi la méthode Montessori, c'est parce que c'était une méthode pour la paix dans le monde. Et donc, je crois beaucoup à l'éducation des enfants pour la paix dans le monde. Et pour être en paix dans le monde, il faut qu'ils soient en paix avec eux-mêmes. Et comme vous disiez tout à l'heure, malheureusement, nous, notre génération, et je pense celle d'en dessous aussi, n'a pas été formée à tout ce que vous expliquez. Et je pense qu'il y a besoin d'expliquer tout ça même aux enfants. Et est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça en classe et comment vous voyez tous les thèmes que vous abordez dans votre podcast? Moi, je pense qu'on peut l'aborder avec les enfants, assez jeunes. Et est-ce que vous avez une idée là-dessus, comment on pourrait faire? Parce que je pense qu'il faut l'enseigner.
Je suis entièrement d'accord et alors mes enfants sont à l'école publique et donc avec dans des écoles plus conventionnelles mais j'ai déjà remarqué que ils reviennent à la maison avec des feuilles de travail, des chansons, des choses qui parlent davantage de ça. Donc je pense que le changement est en marche et je pense que c'est quelque chose qui je suis entièrement d'accord avec le fait que c'est capital d'en parler à l'école. C'est capital d'en parler à l'école parce qu'une très grande partie de la vie émotionnelle des enfants se passe comme leur vie tout court en classe et que c'est face à leurs camarades, c'est face à leurs enseignants, c'est face aux animateurs, animatrices, etc. que toute une dynamique de relation s'installe qui est différente des relations au sein de la famille. Et donc, il y a des schémas de pensée des types d'émotions qui peuvent survenir dans ces situations-là qui ne sont pas celles dont ils font l'expérience à la maison. Et donc, je pense que c'est capital pour les enseignants d'avoir cette lecture-là du comportement des enfants et cette lecture-là de leur propre fonctionnement pour que, justement, cet apprentissage de la vie en communauté, de la vie du partage, de l'apprentissage, de se tromper pour mieux apprendre, etc. C'est capital d'avoir cette lecture émotionnelle-là des choses parce que sinon, c'est comme Voilà, c'est un peu comme avant qu'on découvre les bactéries. Il y avait tout un tas de phénomènes où on ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'on ne savait pas qu'il y avait que c'était les bactéries en dessous. Et c'est finalement un peu la même chose. Si on regarde des enfants qui interagissent ensemble et qu'on n'a pas une lecture émotionnelle de ce qui peut se passer dans la tête de chacun, on ne voit que des petits animaux qui se tapent dessus, qui se mordent, qui se crient dessus, etc. Et donc, du coup, cette lecture-là, elle va être complètement erronée. On va tomber complètement à côté et on sera passé à côté de la relation avec les enfants. Donc c'est absolument capital et je pense que les méthodologies vont sans doute s'installer, mais de la même façon que pour les parents, je pense que le tout premier chantier, c'est de s'assurer que les enseignants eux-mêmes ont cette lecture-là pour eux-mêmes, parce que Dieu sait que le métier d'enseignant est un métier qui est émotionnellement, qui fait naître beaucoup d'émotions au fil de la journée. C'est un métier qui est assez qui est intense parce que justement il y a beaucoup d'interactions. En fait, il y a beaucoup de relations, la relation avec le directeur ou la directrice de l'école, avec les autres enseignants, avec les enfants, etc. Donc c'est plein de relations au fil de la journée. Dans chacune de ces relations, il y a plein d'émotions. Et donc les enseignants ont vraiment besoin de pouvoir s'accompagner eux-mêmes. S'il pouvait y avoir au niveau des équipes, des équipes pédagogiques, une forme d'accompagnement avec peut-être sous forme de stage ou peut-être sous forme d'atelier ou au long cours pendant l'année, je pense que ce serait vraiment favorable à la fois à la qualité d'expérience des enseignants, mais aussi dans la façon dont les enseignants pourraient transmettre ça aux enfants. Mais en plus, moi, je trouve que tout le monde des émotions, le monde des émotions est finalement assez ludique. Et à travers les livres, il y a énormément de choses à faire. Et le monde des pensées, en fait, c'est le monde du langage. Pratiquement tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit à longueur de journée, ce sont des pensées. Donc, je trouve que c'est finalement, il y a des façons très ludiques de jouer avec ça. Et personnellement, là, pendant le confinement avec mes enfants, je passe beaucoup plus de temps avec eux, on lit beaucoup plus de livres, on regarde beaucoup plus de choses. Et j'ai un peu mes antennes de maîtresse quand je suis avec eux, parce que je sais que je suis le relais du corps enseignant pendant cette période. Et par exemple, il y a une chose que je fais, c'est dans les livres, je leur demande de temps en temps d'essayer de lire l'émotion sur le visage du personnage. Et donc de dire comment est-ce que tu penses qu'il se sent là, tel personnage. Et c'est intéressant d'ouvrir la discussion là-dessus. Donc encore une fois, l'idée, c'est de s'assurer que ces choses-là, à la fois le monde des pensées et le monde des émotions, que c'est pas un sujet à part, mais que c'est un sujet qui finalement est en filigrane à longueur de journée.
Oui, mais il y a plein de choses que vous expliquez. Par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, la différence entre acceptation et résignation. Par exemple, vous abordez beaucoup de thèmes comme ça que je trouve très intéressants. Qu'on pourrait expliquer peut-être justement aux enfants qu'on accepte, c'est pas parce qu'on accepte qu'on se résigne. Moi, je trouve ça passionnant pour les enfants aussi, ça.
Tout à fait. Mais en fait, moi, je pense encore une fois que si les enseignants ont ces outils et que ça les intéresse, ils n'auront pas de mal à le transmettre aux enfants, ouais, parce que, à titre personnel, je n'ai aucun mal à transmettre à mes enfants ce qui me passionne. Oui, par contre, ce que je comprends pas bien ou ce qui m'intéresse pas, ça m'est beaucoup plus difficile. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver une façon de transmettre ça aux enseignants. Et je pense que c'est quelque chose où il y a des enseignants pour qui ça va être intéressant et puis d'autres pour qui ça ne résonnera pas ou ça ne leur apparaîtra pas. Est-ce qu'il faut mettre ça dans les programmes de l'éducation nationale? Je ne sais pas. Mais je pense que
pour moi, oui, hein, parce que pour que les enfants se sentent bien, je sais pas, mais c'est indispensable pour que les enfants se sentent bien et qu'ils deviennent des adultes en paix, justement, avec eux-mêmes.
Oui, c'est ça. En fait, la raison, je pense que c'est important que ça n'ait pas un caractère
obligatoire.
C'est-à-dire que je pense que obligatoire, parce que je pense que si on est surtout à cette période de transition où finalement, parmi nous autres adultes, on est quand même un nombre grandissant à s'intéresser à ces questions-là et à trouver que c'est absolument majeur et capital, mais ce n'est pas le cas pour tous, et donc je pense que c'est pas forcément une bonne idée de demander à quelqu'un à qui ça ne parle pas et qui ne s'intéresse pas à ça spécialement, de transmettre ça si cette personne-là le fait sans passion ou par-dessus la jambe ou... Enfin, oui, peut-être que je me trompe. Je sais pas. C'est
non, non, je
comme
pense
ça.
Que vous avez. Non, non, je pense que vous avez raison. De toute façon, on peut pas transmettre quelque chose qu'on ne vit pas. positivement, mais ça devrait peut-être faire partie de la formation.
Oui,
de,
tout à fait.
Des enseignants.
Oui, mais c'est même tellement étonnant que ça ne le soit pas déjà. Oui.
Même la formation d'un parent, quand on devient parent, je pense que quand on devient parent, on devrait avoir une petite formation de ce côté-là, justement, aussi.
Mais complètement, tout à fait.
Est-ce que vous avez mentionné, par exemple, en ce moment, de passer beaucoup de temps à lire des histoires avec vos enfants? Est-ce que vous auriez d'autres petits conseils comme ça à donner aux parents qui ont de jeunes enfants pour leur expliquer justement les émotions, les pensées?
Alors, moi, ce que je fais beaucoup avec mes enfants, c'est... Quand je suis avec mes enfants et que je vois qu'ils ont l'air de se débattre avec une émotion, en fait, alors déjà je gère ma propre émotion par rapport à ça, si j'ai une émotion qui pour moi aussi est difficile à gérer, et soit dans l'instant, soit après, j'essaye d'avoir une discussion avec eux. Alors parfois ils y sont disposés, parfois ils n'y sont pas disposés, je n'en fais aucunement une obligation, mais par exemple tout à l'heure mon fils me disait qu'il était triste. En fait, l'autre jour il était en colère, il a cassé un objet qui lui appartenait, donc maintenant il est triste de l'avoir cassé. Et donc il m'a dit qu'il était triste, et donc je l'ai pris sur mes genoux, et en fait on a parlé de la tristesse. On a parlé de la tristesse, je lui ai demandé où est-ce qu'elle était, où est-ce qu'il la sentait. Alors c'était dans les yeux, ça lui faisait chaud, et puis c'était dans la bouche, le menton qui tremblait, et puis le cœur qui paraissait lourd, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça avec un enfant, parce que le réflexe de la plupart des parents, c'est mon enfant est triste, catastrophe, il faut absolument que mon enfant se sente mieux, la tristesse ça va pas, mon enfant triste, moi-même je suis triste, vite SOS, SOS tristesse, comment est-ce qu'on fait? Mais si, mais non, mais t'inquiète pas, je vais t'en acheter un autre, etc.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, je trouve que c'est très bénéfique et pour le parent et pour l'enfant, de se dire, bah tiens, d'accord, c'est super, enfin, moi je me disais intérieurement, c'est super qu'il puisse me dire qu'il est triste, et on peut en parler de la tristesse. On en parlait il n'y a pas très longtemps, on lisait un livre qui parle de la mort d'un grand-père, et mes enfants étaient éplorés de tristesse, parce que j'ai perdu mon père il y a 2 ans, à l'idée que je meurs, à l'idée que leur père meurt, etc. Et en fait, moi, du fait de ma connaissance de ces émotions, je trouve ça formidable de pouvoir avoir un espace où, certes, il était tard, les deux étaient tristes et on a pu parler de ça. On a pu parler de la tristesse, où est-ce qu'elle était et pourquoi est-ce qu'ils se sentaient tristes et qu'est-ce qui se passerait si je mourais. Et en fait, j'ai l'intuition que c'est beaucoup plus rassurant pour les enfants de pouvoir avoir un espace dans lequel on peut parler de ça, même des émotions qui sont difficiles comme la tristesse ou la colère, ou, etc., que de se sentir tout seul avec leur tristesse, et que dès qu'ils en parlent à maman, maman dit « mais non, mais t'inquiète pas, mais je vais pas mourir avant bien longtemps, et puis tu sais, grand-papa, il était très malade, donc, etc. » Enfin, voilà, de pas essayer de les convaincre qu'ils sont pas tristes.
Oui, c'est super intéressant, merci beaucoup. Pour clore cet entretien, j'aurais bien aimé juste que vous nous parliez de votre métier de coach professionnel et notamment des modules que vous dédiez à la parentalité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus pour les auditeurs que ça intéresserait?
Oui, alors mon métier de coach, je l'exerce autour d'un programme qui est un programme en 6 mois, dans lequel j'accompagne des femmes qui ont une vie parentale, une vie de couple et une vie professionnelle. Et donc, en fait, tout le programme a pour objectif de les aider à trouver leur épanouissement au milieu de tous ces rôles qu'elles jouent. Donc ce sont généralement des femmes qui sont plutôt anxieuses, plutôt perfectionnistes, et qui se sentent plutôt débordées en fait par toutes les obligations auxquelles elles se sentent tenues. Et donc l'idée en 6 mois, c'est de passer en revue les différents domaines clés de leur vie pour arriver à mettre le doigt sur ce qui est essentiel pour elles, quels sont les standards auxquels elles ont envie de se tenir, d'où viennent leurs difficultés et comment est-ce qu'on les allège ou comment est-ce qu'on les fait disparaître. Et en particulier dans le volet parental, l'idée c'est de pouvoir définir pour soi-même quel parent est-ce qu'on a envie d'être pour ses enfants, de quelle façon est-ce qu'on a envie de les accompagner dans différentes situations et de s'accompagner soi-même dans différentes situations, parce qu'en fait il y a beaucoup de problématiques autour de la discipline positive. Et donc en fait la parentalité bienveillante, moi je trouve ça absolument formidable, Mais ça, on l'explique toujours, comme je le disais, du point de vue des enfants et ce qu'il faudrait faire pour les enfants. Mais souvent, quand on essaye de mettre ces choses-là en pratique, on s'aperçoit que dans la réalité et dans l'application concrète, il y a tout un tas de cas limites où, en fait, il y a des arbitrages à faire, il faut choisir ses batailles, il faut lâcher sur quelque chose parce qu'en fait, il y a autre chose qui est plus important, etc. Et que ces petits compromis, ces petits arbitrages sont souvent difficiles à faire, en particulier quand on est perfectionniste. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir une vision plus holistique de la qualité de la relation avec son enfant et de notre qualité de vie au sens large, et de se dire, est-ce que ça, c'est suffisamment important pour moi pour qu'on en fasse, voilà, est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a une conséquence, est-ce que, voilà, ou est-ce que ça, quand il est tard et que, voilà, bah tant pis, c'est pas grave, on lâche là-dessus, sans s'en vouloir après, sans se catastropher, sans se culpabiliser, etc., mais peut-être en redressant le tir le lendemain, enfin, en fait, finalement, tout ce qui est prescriptif autour de la parentalité, on oublie que dans la vraie vie, les circonstances changent, que les choses fluctuent, qu'il y a des moments où on est plus ou moins fatigué, on est plus ou moins disposé. Les enfants, ils changent tous les jours, ils traversent des phases, nous aussi, etc. Et donc, pour moi, le vrai super pouvoir de parent, c'est d'apprendre, de définir le cap et de savoir garder le cap en se disant, ça va pas être parfait tous les jours, mais je sais que globalement, voilà la direction dans laquelle je vais et que tant que je vais dans cette direction, je peux me parler gentiment, je peux être fière de moi, je peux être contente d'être avec mes enfants, je peux me féliciter de ce que je fais pour pouvoir repartir avec encore plus d'énergie le lendemain, toujours en direction de ce cap.
C'est passionnant, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup, pour votre temps et pour tout ce partage. On a passé un super moment. Donc, merci beaucoup.
Et donc pour les personnes qui s'intéressent donc au podcast et au programme, donc le podcast on peut le retrouver sur changemavie.com et le programme sur changemavie.com/coaching pour en savoir plus sur le programme.
Super, et bien on mettra tous ces liens sur notre blog et sur notre compte Instagram. Merci beaucoup.
Merci à toutes les deux, à bientôt.
Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.